Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur, auditeur de Radio Silence. Ma chronique Finance Vérité numéro 25 d'aujourd'hui a pour titre général Message dangereux au pluriel. Dans l'actualité économique générale, justement, nous entendîmes hier encore, 23 février 2010, aux actualités télévisées, toujours très complaisantes envers les aboyeurs des syndicats monopolistiques communistes, un activiste CGT hurlait de haine contre le déclaré mépris du président de Total et exigeait le paiement des jours de grève sous menace d'une prolongation de ces grèves. Eh bien, je donne entièrement raison à M. de Margerie, PDG de Total, dénoncé dans son refus de payer. En effet, dans la vie, chacun doit prendre ses responsabilités. C'est déjà bien outrancier d'exiger la réintégration après une rupture abusive du contrat de travail baptisé grève, terme qui excuserait toutes les exactions, tous les délits, voire les crimes. Les grévistes ne doivent en aucun cas espérer en plus que les heures de travail non exécutées leur soient payées. Et puis quoi encore? Oui, tiens, ils nous doivent, à nous tous, tous les dommages qu'ils nous causent. Eux et leur CGT de sinistre mémoire, c'est les droits de l'homme qu'ils disent, et le code civil. Nous apprenons aussi qu'une baisse générale de moins 2,7% de la consommation serait probablement enregistrée pour janvier 2010. La dépression du moral des ménages atteindrait, dit-on également, moins 34% en 2009 après moins 49% en 2008. On peut se demander s'il en reste encore. Le m'as-tu vu de service qui parle quotidiennement à la télé suit logiquement la même courbe dans les sondages concernant sa popularité. Il s'en fout d'ailleurs complètement puisqu'il s'est offert une cafetière à 25 000 euros et un four à pizza de 54 000 euros dans son avion présidentiel payé par le budget de la défense, lui-même alimenté par les impôts des rares personnes qui arrivent encore à produire quelque chose en France, impôts complétés chaque année davantage par un endettement irresponsable qui devrait placer ceux qui gouvernent à tout niveau sous tutelle judiciaire pour prodigalité. Mon conseil patrimonial du jour, il est simple. Statu quo sur les positions antérieurement conseillées pour l'instant. Mais je ne résiste pas à l'envie de vous communiquer ma colère au sujet des commentaires débiles que l'on entend depuis quelques jours au sujet de la crise grecque, entre guillemets. Encore ce midi, sur Etélé, un pseudo-spécialiste, assez jeune, trop jeune, raconte à la gamine qui l'interroge d'une bouche gourmande de sottises que, de même que certains autres commentateurs, il suppose la possibilité d'un crash du dollar US causé par cette crise grecque. La facilité, générée par son évidente ignorance crasse du sujet monétaire, le vide du commentaire, tout cela est surprenant. Voilà quelqu'un qui ignore de toute évidence l'alpha à l'oméga du risque bancaire, qui, supposant que des créances sur l'État grec pourraient encore encombrer le compte d'exploitation et le bilan de quelques banques US en 2010, en déduit aussitôt un crash possible du dollar. Quel saut ! Par-dessus l'océan Atlantique monétaire, peuplé d'icebergs financiers titrisés au nord et de détritus de dettes annulées dans la mer des sargasses bancaires. Le fait que la Grèce n'ait pas de monnaie et soit incluse dans la zone euro monétaire, bancaire et financière, ne lui suggère aucunement un crash possible de l'euro qui n'est pourtant pas une monnaie stricto sensu. Non, c'est tout de suite au dollar qui, lui, en est une, pourtant, auquel il pense. Inouï. Vraiment, n'écoutez rien de ce qui se dit à la télé, c'est mieux que d'essayer de démêler le vrai du faux. C'est simple, tout est faux. Tranchez le cordon ombilical médiatique qui vous relie à la petite lucarne et vous serez enfin libre. Peut-être, alors, vous rappellerez-vous que les USA ont planifié avec les Anglais la guerre de 1939 et ses bombardements anticités et anti-économiques sur la France et surtout sur l'Allemagne, dès la crise de 1929, débloquer immédiatement des aides financières occultes au parti nazi et obliger le chancelier Brüning à faire la courte échelle à Hitler en 1934, après lui avoir fait assassiner 26 personnalités de haut niveau par Brüning, dont le gouverneur de la Banque d'Allemagne qui refusait de marcher dans l'économie politique appauvrissante décrétée. Les USA feront la guerre n'importe où, en Iran par exemple, s'il le faut, comme ils l'ont fait en Irak, pour masquer leur faillite éventuelle par un conflit majeur. En Europe, ils ont obtenu un retour sur investissement du plan Marshall gigantesque de plus de 50 000%. On pourrait même dire, si on prenait les 30 000 milliards de dollars évoqués dans les années 80, de 150 000% de 1945 à 1979, programmés dès 1929, en transférant en plus le chômage américain en Europe de l'Ouest de manière accentuée de 1976 à 2010 avec la courroie des taux de change flottants. L'Amérique est un grand pays, extrêmement dangereux pour le monde, car gouverné par une secte satanique depuis la guerre de sécession. Nous aurions dû aider les confédérés et non pas les fédéraux. Ce qui m'amène à mon histoire de la monnaie, toujours errare humanam est perseverare diabolicum, dans son chapitre 25, qui est la troisième rétrospective, cette fois sur les porte-monnaies, le contenu des porte-monnaies de nos mères, arrière-grand-mères, aïeules et ancêtres. La première partie, que je voudrais pas alourdir trop cette chronique, je vais couper en deux ou trois parties, cette première partie de cette rétrospective sur le contenu des porte-monnaies de nos ancêtres va porter sur la période de Louis XVI, la monarchie constitutionnelle, puis la Convention. En 2010, le franc aurait 650 ans. Personne ne nous en parle. Il est aujourd'hui au placard de l'histoire de France, mais pas de celle du monde. En effet, il survit encore par ses fils, les CFA et les CFP, mais aussi par ses neveux, tout ça entre guillemets, comme le franc suisse. Il était arrivé à un point où ses pièces étaient faites de nickel, de cuivre, d'aluminium et de beaucoup plus de papier coloré encore. Bien dévalué, le franc français a été remplacé par des pièces des mêmes alliages, plus du fer, pour les flancs des centimes d'euros, et d'autres bouts de papier colorés encore. Le franc était devenu pour l'essentiel une reconnaissance de dette de l'État français et de sa Banque Centrale Nationale. L'euro n'est même plus rien du tout. Un simple nombre imprimé sur des graffitis, pas de somme en lettres, pas de signature authentifiée, pas d'émetteur certain, bref, une vulgaire non-valeur, laquelle est supposée cependant valoir 6,55957 fois notre bon vieux franc dévalué. Les institutions européennes nous prennent vraiment pour des cons. Sous Louis XVI, de 1774 à 1792, le roi, lui, respectait ses sujets et les bourses de nos aïeux recueillaient des louis d'or au nominal de 24 livres tournois de 8,10 grammes complétés par des doubles louis pesant donc rigoureusement 16,20 g pour les gros échanges. Des écus d'argent de 29,5 g valant 6 livres tournois, ce qui mettait l'argent dans un rapport de près de 15 pour 1 avec l'or. Des sols de cuivre pur pesant 12,24 g et valant 12 deniers tournois. Toutes ces pièces portaient le portrait de Louis XVI à l'avers et au revers l'écu du roi de France aux célèbres trois fleurs de lys. Il n'y avait que très peu de lettres de change en circulation pour les très importants règlements interbancaires. La monnaie scripturale était réduite au minimum. Durant les trois ans de la monarchie constitutionnelle, de 1789 au 22 septembre 1792, date de l'abrogation de la royauté par la Convention, les bourses se remplirent progressivement de pièces nouvelles, d'argent et de bronze. Des écus d'argent de 30 grammes à 916 millièmes de fin, c'est-à-dire 27,46 grammes d'argent pur, en légère dévaluation donc sur les précédents, puisque réputés toujours valoir 6 livres tournois, Il portait le portrait de Louis XVI, mais cette fois roi des Français, à la verre, et au revers le type génie avec parfois le bonnet phrygien, déjà. Des demi-écus d'argent de 15 grammes au même titre, évalant donc 3 livres tournois et à peu près identiquement frappés, des pièces de 30 sols d'argent de 10 grammes valant donc 2 livres tournois, des pièces de 15 sols toujours d'argent de 5 grammes valant donc 1 livre tournois, et des pièces de bronze de 12 deniers tournois pesant 12 grammes, des 6 deniers pesant 6 et de 3 deniers pesant 3 grammes, ce qui fait qu'un gramme de bronze valait donc 1 denier tournois. Comme on le voit, le régime monétaire ne change guère jusqu'au régicide de Louis XVI le 21 janvier 1793. Tout au plus peut-on sentir une volonté de simplification de calcul pour le peuple, masquant une dévaluation par la généralisation du bronze, la raréfaction de l'or et le fractionnement de l'argent, situation déjà vécue au temps de Salluste aux environs des années 70 avant Jésus-Christ. La convention, une fois son crime commis à une voix de majorité, que l'on peut attribuer aux frères de Louis XVI, convoitant la couronne sous l'instigation de sa maîtresse anglaise, allait en commettre des centaines de milliers d'autres, provoquant alors l'intervention de la communauté internationale de l'époque contre ce régime de criminels contre l'humanité. Nous ne devions entendre parler de ce génocide franco-français qu'en 1986, grâce au livre de Reynald Secher. Pendant qu'elle ordonne ce génocide incroyable, la Convention continue de frapper de nouvelles pièces de monnaie de 1793 à 1802. Des pièces d'or de 7,60 g à 900 millièmes de fin seulement, au nominal toujours de 24 livres tournois, avec donc une dévaluation de 6% sur les Louis XVI, qui comportait cette pièce d'or nouvelle, pour la première fois au monde, la gravure en relief sur la tranche « Liberté, égalité ». Des écus d'argent de 30 grammes à 916 millièmes de fin valant 6 livres tournois à l'identique des précédents, la livre tournois vaut donc alors 4,58 grammes d'argent pur. Elle devait changer le nom de livre tournois pour celui de franc le 7 avril 1795, 18 germinal en 3, dit de la liberté. Une nouvelle pièce apparut alors, la pièce de 5 francs d'argent à 900 millièmes de fin, pesant 25 grammes, et portant le groupe allégorique Hercule à la verre, et gravée cette fois en creux sur la tranche garantie nationale. Avec une légère dévaluation sur la livre tournois, le franc vaut donc 4,50 grammes d'argent pur. Toujours ce goût des chiffres ronds, allant de pair avec le système décimal, soi-disant plus simple que les unités anciennes. Le franc dit de germinal était né. Ce changement de message politique adressé au peuple n'était évidemment pas anodin et véhiculait une action psychologique tout en épargnant quelques tonnes d'argent métal au trésor républicain en pleine guerre. La convention devait également enrichir les porte-monnaies de pièces de bronze, deux sols de 24 grammes, un sol de 12 grammes et un demi-sol de 6 grammes, avec la proclamation dessus « Les hommes sont tous égaux devant la loi » à la verre, et au revers la balance de la justice, sans doute pour graver aussi le changement de régime dans les têtes populaires, souvent encore royalistes. Dans le cadre de la mise en place forcée du système décimal, ces pièces seront progressivement remplacées par des 10 centimes de bronze de 10 grammes, 5 sols anciens valant donc alors 60 centimes nouveaux, 5 centimes de 5 grammes, 1 centime de 2 grammes, ce qui fait qu'il valait donc mieux détenir 10 pièces de 1 centime pesant 20 grammes de bronze plutôt qu'une de 10 centimes qui n'en pesait que 10 grammes. Voilà quelle était la situation à la veille du consulat, et nous reprendrons à ce point dans notre deuxième partie, la prochaine fois, en commençant donc par le consulat. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur, auditeur de Radio Silence.